sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le sculpteur Pierre-Édouard, succédant à Albert Ferraud, a été officiellement installé au sein de l'Académie des Beaux-Arts par son confrère et ami le sculpteur Gérard Lanvin. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette cérémonie du 10 mars 2010 sous la coupole de l'Institut de France. Vous entendrez Gérard Lanvin, membre de la section de sculpture pour le discours d'installation de Pierre-Édouard, puis vous entendrez Alain Zepfel, contre-ténor, fondateur de l'ensemble Gradiva et metteur en scène, en lieu et place de Pierre-Édouard, pour la lecture du discours d'éloge consacré au sculpteur Albert Ferraud. Pierre-Édouard a souhaité que son discours soit prononcé par la voix de son ami Alain Zepfel.
Messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier, messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames et messieurs, si j'ai accepté par amitié, cher Pierre-Édouard, d'accueillir ici le nouvel élu que vous êtes dans la section de sculpture, je n'aurais pas cru que mon premier soin aurait été de saluer la mémoire de votre père, le peintre. Charles Motion, disparu il y a un mois, aurait dû se trouver parmi nous. J'ai tout de suite rouvert le catalogue d'une de vos expositions pour le portrait du père qui s'y trouve, de profil ou de trois quarts. L'un d'entre eux s'accompagne, cher Pierre-Édouard, d'un autoportrait. C'est donc rester proche de votre père que de dire vous êtes né à Paris en 1959, dans une famille d'artistes. Vos dispositions, très tôt, vous ont mis en état de commencer, en particulier avec votre père, un entretien qui s'est perpétué. On aimerait surprendre, avec toute la discrétion requise, une intimité où la tendresse réciproque devait faire merveille. Vous avez raconté que, à la maison, les artistes dont vous avez commencé à entendre parler étaient Rothko, Nicolas de Staël, puis vinrent Brancusi, Giacometti. Et sans doute était-ce une boutade que de dire que vous n'avez jamais appris à dessiner. De fait, non seulement vous dessinez, mais vous gravez et peignez. La sculpture viendra plus tard, constituant une espèce de synthèse. Vous m'avez montré chez vous, à côté d'une de vos premières toiles abstraites, une petite tête en plâtre et un masque, fragment de visage, vos premières sculptures à l'âge de 12 ans, que vous avez gardé peut-être comme une sorte de talisman. Vous entrez un jour, tout seul, je crois, vers 8 ou 10 ans, combien de garçons à cet âge y entrent de leur propre volonté, au musée Guimet. Là, devant la série des Bouddhas Khmer, leur caractère absolu, vous recevez l'obscure impression que le chemin passe par là. Vous recevez bientôt la même impression au Louvre, devant le scribe accroupi. Mais vous allez faire au Louvre une rencontre inattendue et déterminante avec Léonard de Vinci et en particulier avec le Saint Jean-Baptiste et la Sainte Anne. Ce qui vous retient devant ce tableau, c'est le modelé des visages qui va vous faire penser à ce que vous appellerez plus tard une modulation infinie. Je note tout de suite que la Sainte Anne de Léonard de Vinci, assise sur les genoux de la Vierge, est penchée en avant, courbée vers Jésus. Les visages de la Vierge et de sa parente, celui de l'enfant, tout leur corps, sont modelés à ravir par gradation savante. D'ores et déjà, vous apparaissez comme hors norme, l'esprit non prévenu, lucide. Vous ne pouvez pas vous passer de la forme humaine et vous cherchez néanmoins toujours à l'éviter. Quoi que vous fassiez, vous la rencontrez. Vous êtes fasciné par le tragique pascalien. C'est le Pascal de la géométrie, du hasard, du vertige face aux infinis, du fragment des contrastes hallucinants, des clairs et des sombres, des ruptures abruptes et des interrogations sans fin. Cette ascèse pascalienne, vous la retrouvez chez Glenn Gould, qui, vous me l'avez souvent dit, est le créateur qui vous a le plus profondément marqué par sa pensée. Sans doute pour cette modulation sans début ni fin et pour la manière d'interpréter Bach en regard de la mort, mais dans un instant présent éternel. Ce qui vous passionne véritablement dans toute création, c'est lorsque la rigueur géométrique est poussée tellement loin qu'elle en devient, dites-vous, lyrique, incandescente et qu'elle nous donne envie de mourir par sa beauté, parce qu'elle a perdu la raison. Votre scolarité se poursuit à l'école alsacienne et, le moment venu, vous vous inscrivez à l'école des arts décoratifs. Là, votre relation au modèle m'a frappé. Il était pour vous une présence utile et peut-être nécessaire, mais à partir de laquelle tout commence. De beaux dessins dans la pénombre apparaissaient. Vous n'avez pas 20 ans, vous commencez à exposer. Très vite apparaît le thème de l'homme à terre, de l'homme agenouillé. Ils s'inscrivent dans un trapèze, l'homme semble recourbé sur un trésor. Et c'est une suite admirable, rien n'y est anecdotique, c'est d'abord un rapport aux masses. Visage que recouvre en partie des cheveux, tonalité sourde, le dos éclairé, des plis architecturaux. Tel exégète s'est demandé si on était devant le corps de Patrocle, de Diomède ou d'Hector, mais on n'est pas devant Troie. Ce garçon pourrait être l'un d'entre nous, simplement courbé en avant, rien de beau comme cette chute en douceur. Il n'y a aucune gesticulation, aucune violence, un lyrisme qui émane du fond des choses, d'une imprégnation tout ensemble antérieure et actuelle. Et voici venir les femmes à l'échelle, la figure se redresse. Me voici en face de cette figure, c'est une gravure. Et d'abord, je ne m'y retrouve pas, jusqu'au jour, c'est le cas de le dire, où, à mon réveil, l'attitude me paraît évidente. Et comme je le faisais remarquer, cher Pierre-Édouard, cela vous a frappé et plu. Cela rejoint l'observation de Michel Schneider. Pierre-Édouard peint au ras des êtres sans les forcer, comme on touche pour le réveiller quelqu'un qui dort. C'est un caractère de ce que vous faites que vous semblez réveiller des êtres qui se tiennent dans une attitude presque médiumnique. Un jour, j'imagine que, dans votre atelier, à l'odeur de la térébenthine s'est ajoutée celle de la cire. Vous aviez découvert la cire d'abeille. Vous êtes mis à la préparer vous-même. Elle convenait à vos premières sculptures. Vous épargniez des armatures. Sa fluidité est caressante et vous l'utilisez par plaques. Cela me rappelle que des facettes apparaissaient dans le fond de vos peintures d'une manière assez cézannienne. Voici d'abord un visage d'homme renversé, puis un visage de femme comme venu de très loin. S'y ajoute un torse, puis une indication de bras. Saurait-on ce que vous allez faire bientôt ? La filiation paraîtrait évidente. Eh bien, vous n'avez peut-être pas encore rencontré, reconnu la figure qui va vous occuper 10 ans, avec laquelle vous n'en avez d'ailleurs pas fini. C'est de l'Ève d'Autun qu'il s'agit, d'un haut relief du XIIe siècle qui orne un portail latéral de la cathédrale. Chacun peut en admirer de près un moulage au Musée des Monuments Français. Dans une communication passionnante qu'on voudrait citer longuement, vous rappeler qu'une figure en forme d'arche s'est peu à peu imposée à vous, en surplomb, ne tenant dans le vide que par deux genoux, qu'une fresque du tombeau de Toutankhamon vous obsédait, qui représente Nout, déesse de la voûte céleste. Votre figure, elle, s'appelle bien Ève, et vous la tenez pour un hommage au sculpteur d'Autun, Gilbert Suss. Mais elle se raconte aussi à partir de tout ce que vous avez fait depuis des années. Ce torse en surplomb, venu se refermer comme une carène, est le prolongement naturel d'un bassin qui semble l'avoir engendré. Et ses cuisses, ses jambes, semblent nées d'une déchirure, peut-être une goutte de cire, a modifié un galbe et, plus haut, l'arrondi d'un bras. Vous avez manifesté beaucoup de curiosité lorsque Claude Marie, élève de Germaine Richier, vous a parlé de triangulation. Germaine Richier l'avait pratiqué pour l'avoir tenu de Bourdel, qu'il aurait hérité de Rodin. Cela me semble rester d'ordre subjectif, qui ne peut être que compris sur le champ si on le réinvente. Vous avez parlé, Pierre-Édouard, d'une géométrie de l'espace et qui vous dirige. Sans doute est-ce là un des secrets de votre façon de procéder. Je suis frappé, quant à moi, dans ce que vous faites, par des axes, des torsions, des arêtes, des sillons, des surplombs. Vous avez parlé de commencer une sculpture avec l'idée d'une montagne ou d'un temple. Un corps fait naître l'idée d'un entablement. Les visiteurs de votre atelier ont pu avoir l'impression d'entrer dans un sanctuaire. Je serais, pour ma part, enclin à parler plutôt de métaphores en souhaitant qu'elle ne soit pas la visée d'un système, sans surtout qu'on dût la signaler. Faire des séries n'implique pas une progression, mais un réajustement par rapport à une vision initiale. Les choses, c'est vous, sont faites à partir du vide, sans direction préétablie, progressant en aveugle et somme toute sur une vision et fugace, prenant fond sur un absolu et qui touche aux origines. Degas, qui commençait à perdre la vue, a dit de la sculpture, c'est un mot, que c'était un métier d'aveugle. Il n'a pas dédaigné qu'une de ses peintures, d'une femme nue, fût appelée, ou il l'a laissée appeler, côte escarpée, cap de la belle épaule. Je ne puis m'empêcher de rapprocher de votre Ève une sculpture de Rodin, intitulée « La Terre », et qui partage avec elle je ne sais quoi de morcelé et de rompu, à cette différence que l'une, celle de Rodin, fait corps avec le sol. Est-ce à dire que la vôtre s'arrache au réel ? Absolument pas. Mais elle se situe sur des confins qui touchent, pour moi, à l'impondérable. Difficile, là-dessus, de rappeler que vous avez exposé dans des lieux de qualité, en France comme ailleurs, particulièrement à la galerie Claude Bernard, et reçu d'importantes distinctions. Je préférerais, pour finir cette présentation trop sommaire, en rester sur un suspens. Je me bornerai, en guise de conclusion, d'indiquer que, vous souvenant peut-être des victimes de Pompéi, vous hante aussi bien l'abolition de la figuration, et même si c'est un grand mot, l'intemporel. Cependant que toute votre affaire est de reconstruire. C'est assez, je crois, nous réveiller de ce qui passe pour ce qui dure, d'avoir à présenter, cher Pierre-Édouard, le plaisir de vous souhaiter ici, au nom de tous, le plus chaleureux accueil.
Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier, Messieurs le secrétaire perpétuel, chers confrères, Mesdames, Messieurs, je n'ai pas connu Albert Féraud. Je le regrette. Lorsqu'il rentre à Paris après son séjour à Rome, à la Villa Médicis, Ferraud va vivre quelques années de toute première importance pour lui. C'est au cours de ces années 50-60 qu'il va découvrir le métal, matériau premier de sa sculpture. Ces mêmes années verront ma naissance. Ces coïncidences m'impressionnent toujours, surtout aujourd'hui, où ma rencontre avec lui se produit grâce à vous, mes chers confrères, et à vos suffrages. Je ne saurais trop vous en remercier, et je suis très honoré d'être ici pour faire l'éloge d'Albert Ferraud. Je me demande cependant, est-ce l'éloge d'un homme, d'une carrière, d'un talent, d'un parcours ? Comment approche-t-on une œuvre qui a posé son point final avec les mots de l'éloge ? On le fait certainement avec sa foi propre, et je ne suis pas du tout certain de croire au mérite et à l'excellence. Je ne suis pas sûr non plus de croire au talent. Je crois au destin. Je me demande souvent si la peinture, la sculpture ne sont pas profondément impersonnelles, si elles ne sont pas au fond des phénomènes naturels comme la respiration, les battements du cœur. La création m'apparaît de plus en plus comme une aspiration de l'être à une vision qui lui est propre, un colossal effort pour donner vie à ce projet. Mais ce projet, cette vision, sont à l'intérieur de nous-mêmes comme un désir brûlant. On ne choisit pas de désirer, on ne choisit pas une obsession qui nous habite. Cela s'impose naturellement comme la faim ou la soif, ou comme le ferait un amour. Cette soif est un destin. C'est elle qui exige la mise en œuvre de ce projet. C'est elle aussi qui va trouver le moyen pour le réaliser. C'est elle encore qui demande que ce message aille jusqu'à autrui. Et parce que cette immense soif est une générosité profonde, parce qu'elle est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'elle est une naissance au monde, elle demande aussi la pérennité de l'œuvre à travers le temps. Lorsqu'un être fait véritablement œuvre d'art, personne, depuis le commencement des temps, n'avait fait cette œuvre-là. De même, après son passage, personne ne pourra jamais plus la faire jusqu'à la fin des temps. Que cette œuvre finisse au fond d'un grenier ou dans tous les musées du monde, ça ne change rien à l'affaire et c'est un vertige. Bien évidemment, on ne peut avoir qu'un sentiment de gratitude profonde face à ce passage d'un être sur terre dans ce qui fut son plus cher désir. Parmi les usages de l'Académie des Beaux-Arts, il en est un qui est de rendre visite à l'épouse et aux enfants du regretté académicien au siège duquel on a été élu. Pour moi, ce fut une chance, le privilège de visiter l'atelier de Ferraud. D'abord, un simple portail dans une rue de banlieue déserte, puis une cour remplie de ces énormes sentinelles d'acier. L'atelier est un immense hangar, un lieu qui tient à la fois du garage d'automobile, de l'atelier du sculpteur, du repère d'inventeur. Puis les énormes machines à modeler et à scier le métal. Des milliers d'outils qui sont certainement appropriés à des fonctions précises liées à l'acier. Vers le fond, je découvre les œuvres restées en suspens. Cet endroit respire un travail très rude, intense, violent, avec sa dose de consommation physique, d'effort manuel. J'ai cette impression étrange que le maître des lieux s'est juste absenté quelques minutes et qu'il va m'accueillir, souriant. Cet atelier n'a pas fini de vivre et de servir la création qui l'habite. Mais peut-être n'est-ce là qu'un lieu commun. Peut-être la mort d'un artiste, la fin d'une œuvre, ne sont jamais qu'un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Peut-être la nature interne d'une œuvre est-elle d'être un monde en expansion infinie qui ne connaît pas l'amoindrissement, la rupture, le point final. Peut-être la mort dans l'art n'est-elle qu'un événement minime, anecdotique, qui va stupidement mettre un terme à quelque chose qui n'en a pas. À côté de cet atelier, le pavillon d'habitation qu'Albert Ferraud y avait fait construire pour sa famille. Madame Ferraud m'y convie. Je vais y découvrir quelque chose de poignant. Pour la plupart d'entre vous qui l'avez connu, le culte de l'amitié qu'avait Ferraud n'est pas un mystère. Et ce que je découvre ici, couvrant les murs de ce pavillon, ce sont les œuvres de ses amis proches. J'y admire les œuvres de Chu Tae-chung, Quijenot, Jacques Doucet, Dimitrienko, Olivier Debré, quelques-unes de Ferraud lui-même. Toutes ces œuvres sont abstraites pour la plupart. J'y perçois comme le songe de toute une vie créatrice qu'accompagne l'amitié dans des percées communes, des communautés d'engagement plastique avec ses avancées fulgurantes, ses nœuds, ses impasses, ses accomplissements. Et je me mets à m'interroger quelques instants sur ce paradoxe insoluble auquel je finis par ne pas donner de réponse. Une œuvre ne peut naître seule. Elle nécessite un terrain d'accompagnement. Elle se nourrit des autres. Et pourtant, la condition première de l'invention des formes est l'inattendu absolu. Ce que nul ne connaît avant qu'il n'éclose, donc ce qui surgit dans une absolue solitude. Devant ces questions trop complexes, je choisis de continuer à regarder les œuvres qui peuplent les murs. Lorsque mon regard est soudain attiré par un tableau au-dessus de l'escalier, je m'approche et ce que l'œuvre semble toucher en moi est très intime, comme si j'y reconnaissais quelque chose qui m'appartient en propre et que je n'identifie pas. Un grand tableau rouge, zébré de noir, profondément tragique. Les tracés du pinceau claquent comme un fouet dans un vide incommensurable. Et je reconnais enfin ce qu'est cette œuvre. C'est une peinture de Mubin Orhon, un peintre turc, un très grand ami de Ferraud, me dit son épouse. Brusquement, tout m'est revenu. Mubin, filiforme, assis au café du gymnase à Montparnasse, ivre d'alcool et de peinture, dans une solitude si profonde qu'il n'en pourrait plus jamais revenir. Mubin, grand seigneur de la peinture, mort dans l'oubli, après avoir vécu la fièvre, meilleur ami de mon père, c'est lui qui, avec ce dernier, m'a guidé dans mes premiers pas de peintre et de sculpteur entre 9 et 18 ans. Cet étrange roi lire de la peinture s'était penché sur mes premiers travaux. Lorsque c'était bien, il pleurait. Lorsque c'était mauvais, il me tournait le dos, partait sans un mot. C'est lui qui m'a appris que la seule chose qui vaut vraiment la peine en art, c'est le silence. Et l'espace, cette immensité. Mon père et lui étaient si proches qu'ils n'avaient pas besoin de se parler pour se donner un avis sur leurs œuvres. Le jour de ma naissance, Mubin a peint pour moi un immense tableau que j'ai toujours. Il est mort de cet infini de l'espace, parce qu'il n'avait pas la sécurité d'un concept pour s'y frayer un chemin, aucune forme pour l'habiter, rien que le champ coloré encore et toujours. Il me disait rêver la nuit qu'il naviguait dans l'illimité de l'espace et que cette solitude était terrible. On ne vit de telles aventures qu'au risque de se perdre. Tout à ses souvenirs, je me suis dit qu'Albert Ferraud n'était vraiment pas un étranger pour moi. Il devenait quelqu'un que je n'avais malheureusement pas rencontré et je comprenais soudain pourquoi il avait été si proche de Mubin. L'œuvre de Ferraud est profondément lyrique. Lorsqu'on parle d'abstraction lyrique, on n'a encore rien dit. Beaucoup d'artistes abstraits se rattachent à des éléments figuratifs. Certaines œuvres de Ferraud incorporent des tracés humanoïdes ou animaliers. Mais la vérité de cette œuvre prend tout de même racine dans une libération vis-à-vis de tout naturalisme au profit d'une sorte d'écriture en trois dimensions qui privilégie une pulsation interne dynamique. Sa sculpture est une danse dionysiaque. Cette danse va débuter dans le sud de la France où il vécut une partie de son enfance. Ses premiers pas sont guidés par son oncle maternel, élève de Gustave Moreau. Dès 19 ans, Ferraud entre aux Beaux-Arts de Montpellier, puis à ceux de Marseille, où il se lie d'amitié avec César et Nadal, tous deux sculpteurs. C'est avec ses deux amis qu'il monte s'installer à Paris pour étudier. À l'école des Beaux-Arts, il rencontre un maître, Alfred Janniot, pour qui il gardera toute sa vie une grande estime. Cela le mènera jusqu'à son premier Grand Prix de Rome, qui va lui permettre de vivre et de travailler à la Villa Médicis durant 4 années. Il a alors 30 ans. Pendant toute cette période et jusqu'à son retour à Paris, son œuvre s'épanouit à travers la terre, le plâtre, la taille de pierre, le bois. Ce qui m'interroge dans ces années d'apprentissage, c'est qu'il s'agit là d'un apprentissage foncièrement classique. Les sculptures de cette période sont relativement proches de Despiau ou de Gimond. Mon trouble, purement relatif, vient du fait que c'est l'extrême inverse de ce que j'ai vécu personnellement. J'y reviendrai plus loin. Le parcours de Ferraud m'apparaît comme un exemple typique d'apprentissage des lois strictement académiques pour plus tard mieux les transgresser. Ce classicisme restera pourtant présent chez lui comme en sourdine, dans sa manière d'agencer les volumes. Il a appris le métier dans tous les sens que cela comporte, les techniques d'abord. Il possède parfaitement l'art du plâtre, de la terre. Il apprend aussi ce qu'on appelle dans le jargon des beaux-arts comment masser une figure. Finalement, cet enseignement des années 40 n'est pas si éloigné de celui de la fin du 19e siècle. Lorsqu'Albert Ferraud revient de Rome, une expérience se produit qui l'emmènera beaucoup plus loin vers ce rêve de métal qu'il ne connaît pas encore. Il fabrique alors avec de la terre des moules en creux dans lesquels il va couler du plomb fondu, modelant donc sa sculpture en négatif. Il soudera ensuite les éléments ainsi créés. Très vite, il va découvrir dans une usine d'Arcueil des éléments de récupération en acier inoxydable qu'il utilisera toute sa vie comme matériau de sculpture. Le chemin se fraye, la découverte est là, l'œuvre de Ferraud est née. Quel vaste sujet que cet âge de fer de la sculpture moderne. Ce n'est pas tant la nouveauté d'un matériau en tant que tel qui est importante, c'est surtout ce qu'il induit plastiquement. La grande invention de la sculpture en métal, c'est la libération par rapport au bloc et à la masse. La traditionnelle terre glaise n'est pas une matière autoportante. Elle a besoin que ses excroissances soient toujours soutenues par le bloc d'origine. Le métal va permettre, grâce à la soudure, de créer une œuvre entièrement faite d'excroissances. Cela va permettre les premières sculptures ouvertes. La sculpture pourra désormais pénétrer le bloc, le désosser, le volatiliser, n'en représenter que la structure interne. La sculpture ne sera plus une peau fermée sur un espace donné, mais une juxtaposition d'organes. La peinture avait déjà parcouru ce chemin. Le cubisme et l'abstraction avaient déjà déchiré la peau pour creuser les structures qui la sous-tendent. Il y a dans le lyrisme de l'abstraction d'Albert Ferraud une constante oscillation entre l'ancestrale organisation plastique de l'espace et le hasard. Et le hasard aime l'abstraction lyrique. Toute sa vie, Ferraud va jouer avec le hasard. Le choix des éléments de récupération en acier, la plieuse d'acier qui va en faire quelque chose d'autre, l'ajustement avec d'autres morceaux, tout cela fait partie de cette danse dont je parlais tout à l'heure. Peut-être est-ce une manière d'avancer dans l'œuvre sans savoir ce qu'elle sera, en lui donnant toutes les chances que le hasard lui propose, mais en ayant aussi de cette œuvre une image intérieure, presque organique, à l'aune de laquelle on mesurera toutes les propositions du hasard. Cela me semble être une manière de se réaliser soi-même dans l'œuvre, devançant la réflexion mentale pour tout de suite se situer sur une zone de conscience beaucoup plus tellurique, plus vaste, plus centrale de notre être. Selon l'attitude intérieure du Créateur, cela peut devenir un chemin extrêmement rapide vers soi-même, et je ne suis pas certain que cela puisse encore s'appeler du hasard. Est-ce encore le hasard, ce mystère de la trace du pinceau que l'on n'a pas voulu, mais qui se révèle terriblement nécessaire? Est-ce lui qui fera un taureau d'un guidon et d'une selle de bicyclette? Ou qui fera naître un singe d'une voiture d'enfant? Est-ce le hasard qui, d'un paysage regardé à l'envers, inventera l'abstraction? C'est un court-circuit du cerveau humain qui rien qu'un instant le rend immense. L'important est d'être là lorsqu'il se produit ou de savoir l'inciter et l'accueillir. Cela fait partie de la danse. L'œuvre de Féraud va toujours se développer dans cette rythmique de l'espace, entre le hasard et la détermination, l'improvisation et la conception. Féraud ne construit pas une œuvre qui suivra un plan établi et que l'on va réaliser point par point, comme on bâtira une maison. C'est au contraire à chaque instant qu'un carrefour se produit avec plusieurs voies possibles. La forme existe dans l'instant, et elle trouve sa cohérence et son rapport aux autres formes uniquement dans l'instant. C'est un art de l'immédiat. Pour cette raison aussi, ces sculptures sont toujours dans un débat avec l'architecture qui les entoure. L'architecture n'est pas un art de l'immédiat. Les angles, les droites, les courbes, l'agencement des volumes architecturaux sont prémédités, organisés, pensés. Les formes de Féraud surgissent comme des végétaux. Elles prolifèrent selon des lois organiques et non géométriques. De là vient la richesse de ces réalisations liées à l'architecture et de cet autre monde qu'il apporte à la ville. Les principes créatifs qui génèrent l'œuvre de Féraud me touchent profondément, un peu comme s'ils étaient une partie de moi-même, souterraine et active. Loin de m'être étranger, ils sont en moi comme un vécu, et peut-être pour une raison simple, c'est que je suis né de l'abstraction lyrique. J'ai grandi dans les années 60 et mon enfance fut entourée d'artistes qui pour la plupart étaient abstraits. Il y a d'abord évidemment mon père, le peintre Charles Motion, qui devrait être à ma place aujourd'hui, et avec qui, du premier jour où j'ai touché un crayon jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé d'entretenir un très profond débat sur nos travaux respectifs. Et puis, il y avait tous ces amis artistes. Ce qui a été pour moi d'une très grande importance, c'est que grâce à ces maîtres, je n'ai jamais appris le métier, ni à dessiner, ni à peindre, ni à sculpter. Je n'ai jamais appris à retranscrire les proportions de la nature, jamais à architecturer et à construire une figure par ses grandes masses. Je veux simplement dire qu'on ne m'a jamais enseigné ce que la génération précédente avait reçu comme formation. Mais parallèlement à ce non-enseignement, on m'a fait découvrir quelque chose qui n'a pas de prix, le fondement de la sculpture et du dessin. On m'a fait découvrir ce qu'est l'espace, et plus encore, le ressenti de l'espace. J'ai appris que ce n'est pas avec les yeux que l'on dessine. J'ai appris que la naissance et la mort d'une forme sont les choses les plus bouleversantes du monde, que la partition de l'espace n'est que musicale et que seule la sensation peut bâtir un espace, que le savoir-faire manuel n'existe pas, que ce qui est décoratif est une mort parce qu'il n'appartient qu'à l'œil et à la main. Je voyais dans leurs œuvres que toutes les traces laissées par le pinceau étaient des traces de vie et non des traces de peinture. Je voyais aussi leur désir, toujours déçu, de l'adéquation la plus exacte entre la colossale force vitale qui nous habite et la vibration de l'espace dans l'œuvre. Ces maîtres avaient mis l'accent sur quelque chose de fondamental. Ces quelques aspects que j'ai énumérés sont au fond des constantes de l'histoire de l'art. Mais ils avaient reposé ces grandes questions, et en réduisant le champ d'action de la peinture, ils l'avaient par là même considérablement élargi. En rejetant toute objectivité, ils avaient réinventé quelque chose de si beau et finalement de si simple, à savoir que la ligne, la couleur, la forme, l'espace, ça veut dire quelque chose en soi. Mais cela, les artistes de tous les temps le savaient déjà. Tout est question d'accent, tout est là depuis une éternité. Le questionnement des créateurs à chaque époque fait renaître une toute petite partie, un aspect dans l'immensité des possibilités de l'art. Et paradoxalement, ce renaître, si c'est de l'art, est toujours là pour la première fois, totalement neuf. Chaque pratique de la peinture et de la sculpture finit par créer un système. Et ce que je viens de décrire est dans une certaine mesure un système. Ce mot ne comporte ici rien de péjoratif. Le pouvoir d'organisation de la pensée est trop vaste pour prendre les choses autrement. Je me suis personnellement éloigné de ce système pour une raison très précise. J'avais besoin d'une vision. Le sens que j'attribue à ce mot a un parfum un peu platonicien. C'est quelque chose que l'on porte en soi, qui préexiste à l'œuvre. Ce n'est pas objectif, car on ne l'a vu nulle part, mais c'est tout de même suscité par le visible. Ça ressemble à un concept, ça a la puissance d'un concept, et pourtant ce n'est pas un concept. C'est un moteur, d'où naît tout l'enthousiasme pour venir à bout de l'œuvre. Je pourrais appeler ça une conception, mais ce ne serait pas exact, car on sait ce qu'il y a dans une conception, on ne sait pas ce qu'il y a dans une vision. Il y a une sorte d'idéalité dans une vision, comme si ce qu'on allait aborder était a priori hors de notre perception et qu'il faudrait longtemps évoluer vers elle pour qu'elle se dévoile à la fin telle qu'elle était au départ. Je pense que Brancusi a eu la vision de l'oiseau. Une vision, ça ressemble à une émotion qui apparaîtrait en tant que forme. Avoir une vision, cela organise absolument tout dans le travail. Les techniques, leur apprentissage s'il y a lieu, les savoirs nécessaires. Chaque geste a deux possibilités, ou bien s'inscrire dans un cheminement vers la mise au monde de cette vision, ou s'en écarter. Chaque parcelle de matière doit s'inscrire dans une perspective, à la fois extrême précision et terrible indétermination. Cela m'a éloigné du précédent système pour la simple raison qu'un travail par rapport à une vision ne peut être un travail de l'immédiat. On ne peut l'approcher par l'immédiateté du geste puisqu'on ne sait jamais si ce geste va concourir à approcher ce qu'on recherche. Ce nouveau système que j'abordais donnait à la figure humaine une extrême importance. Mais si Féraud a toujours gardé dans son travail une présence des enseignements de ses maîtres, j'ai toujours inscrit en moi un fondement résolument abstrait de la sculpture. Une des questions qui se posent à l'orée de notre siècle pour un créateur, c'est la possibilité de la représentation de l'être humain. Même si les découvertes de Duchamp, de Mondrian datent de la première partie du siècle dernier, ils ont renversé un monde et créé un autre dans lequel la représentation de l'homme n'a pas de place. Malraux pensait qu'avec l'abstraction, l'art avait conquis un terrain et ne reviendrait pas en arrière. Il ne se trompait pas, dans la mesure où l'on ne peut jamais plus ignorer une découverte lorsqu'elle a eu lieu, et parce que l'art, effectivement, ne revient jamais en arrière. Mais je crois aussi qu'il se trompait. En ce qui me concerne, l'anéantissement de la représentation du réel a été une chose merveilleuse. Nous vivons cependant des naissances et des morts successives, et la reconstruction possible de la figure telle qu'on ne l'a encore jamais vue pourrait bien être la plus belle chose du monde. Ne plus croire à la possibilité de la représentation de l'homme et ne vivre que pour donner vie à cette image. C'est une aventure étrange, nourrie par l'incertain, et à plusieurs égards, c'est une déchirure. Mais si j'ai choisi de vivre au sein de cette contradiction, loin de vouloir lui trouver une solution, je voudrais mille fois laisser ce terrain de vérité contradictoire m'envahir complètement et devenir la fibre de moi-même. Je crois à la toute-puissance des vérités contradictoires. C'est lorsqu'on est en présence des éléments contraires que la vie ressurgit. C'est en ne pouvant pas répondre à une question que la création jaillit. J'ai pu noter mille fois dans mon propre travail à quel point ne se produit vraiment quelque chose que lorsque mes réponses sont mises en échec. C'est la mise en échec de nos facultés et de nos moyens qui va rendre possible ce qu'on appelle la création. Seules les questions perdurent. Les réponses sont toutes balayées par l'histoire. Aucune réponse ne répond jamais. Dans son discours d'intronisation à l'Académie des Beaux-Arts, Albert Ferrault vous avait dit que la sculpture demeure l'art de l'invention des formes. J'y souscris pleinement. Lors d'une conversation avec l'un de mes amis écrivains, je lui confiais avec inquiétude que j'avais l'impression que mon terrain d'investigation dans le dessin et la sculpture se réduisait sans cesse, que j'avais évacué de mon horizon bon nombre de données plastiques, la couleur, la ligne, le geste, la matière, pour n'avoir finalement comme élément de travail que l'articulation des plans dans l'espace. Et sa réponse me figea sur place. « Mais Pierre, vous ne vous rendez pas compte ? L'art de l'articulation des plans dans l'espace, mais c'est le monde entier. Le monde entier. J'ai bien compris qu'il avait raison. La sculpture est résolument cela pour moi. Cela dit, si l'on a un peu pratiqué la sculpture, on peut se rendre compte très vite que l'espace, on ne sait pas ce que c'est. Une forme n'est grande que parce qu'il y en a une plus petite à côté. Un relief avance parce qu'un autre recule. Quant à une ligne, elle fuit partout, donc nulle part. Où va une ligne en sculpture ? Nous sommes dans un espace indéterminable. La peinture est une aventure inconnue dans un espace inconnu. Rothko a dit cela. La sculpture, c'est se frayer un chemin à travers les innombrables combinaisons de l'espace, l'arpenter, le baliser fictivement. Par le passé, on a tenté de donner à l'espace une hypothétique structure. Chaque époque renouvelle ses codes et ses balises. Giacometti disait ne jamais réussir à modeler l'arrière de la tête dans un buste parce qu'il ne le voyait pas quand il faisait la face. Son propos a l'air simpliste, mais c'est d'une insondable profondeur dans sa vision de l'espace. En ce qui me concerne, je n'ai réussi à aborder la sculpture que par une fugace articulation de plans qui s'émiettent forcément parce qu'ils n'ont pas d'assises. Ils sont dans le vide. Ils apparaissent, disparaissent, se recommencent indéfiniment, jusqu'à ce qu'un semblant de cohérence extrêmement fragile et ténu se fasse jour. Soudain, un rapport s'établit entre quelques plans, et ce rapport, aussi étrange que cela paraisse, ce rapport crée du sens. Rien n'est plus beau que le surgissement de ce sens, je dirais même de cette logique, au sein de cet invraisemblable chaos qu'est l'espace. Nous l'avons tous vécu, plus on avance dans l'œuvre, à la recherche d'une improbable totalité, plus les rapports se faussent, se dissolvent dans le gouffre dévorant que devient leur espace. L'organisation alors se disjoint et nous ramène à notre point de départ. L'organisation des rapports en art est aussi fragile que nos vies. Il est impossible à un créateur de ne pas désirer de toutes ses forces l'avènement d'une totalité. Et même si, comme je l'ai décrit, les rapports s'effondrent, l'œuvre doit se poursuivre. Au cours de cette marche vers la totalité, on rencontre le fragment. Mais il n'est pas une destination, bien qu'il puisse arriver que le fragment soit une totalité, bien qu'une totalité puisse s'établir en tant que fragment. Je ne peux finalement pas vous en dire plus sur cette aventure. Tout ce que je sais, c'est que je garde en moi une sorte de stupeur devant le phénomène qui, à partir de quelques plans de l'espace, va créer un sens et qu'une telle cohérence, soudaine et si fragile, puisse avoir la vie. Elle s'élève, souveraine, monumentale, miracle de la proportion, et certainement, elle est toute notre vie. Bien sûr, elle disparaît, mais elle reparaît aussi. Je ne sais pas bien, pour finir, ce qu'est cette apparition d'un sens, pas plus que je ne sais ce qu'est l'espace, ni quelle voie choisir pour établir des rapports qui créent une logique. Il n'y a pas de chemin. Cela surgit. Nous n'avons finalement peu d'autres alternatives qu'un fragile tâtonnement. Mais ce qui me donne toute ma confiance, c'est qu'il y a dans cet immense et ancestral tâtonnement toute la soif dont je vous parlais au début. C'est une soif inextinguible qui abrite tous nos rêves.
Vous venez d'entendre la retransmission par Canal Academy de la cérémonie d'installation du sculpteur Pierre-Édouard de l'Académie des Beaux-Arts. Cette cérémonie s'est déroulée le 10 mars 2010 sous la coupole de l'Institut de France. Le même jour, à la suite de cette séance solennelle, l'académicien, lors de la cérémonie de sa remise d'épée, s'est vu remettre les insignes de chevalier des arts et lettres par le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud Dautrive.